Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous. Ce midi, la grande table d'été se met sur son 31, dernier jour de juillet et avant-dernière variation autour de l'autre et de ses contraires qui s'attirent. Avec le comédien XXL Olivier Martin-Salvant et la danseuse chorégraphe XXS Kaorito pour leur délicieuse religieuse à la fraise à voir en ce moment au Festival Paris Quartier d'été. Puis nous retrouverons ici même une grande voix du reggae contemporain, le Jamaïcain Winston McAnuff, accompagné du français Fixie pour New Day, leur dernier album, ainsi que les très talentueux, curieux, généreux, le percussionniste Cyril Atef et le performeur Constantin Leu. Sans oublier les habitudes de cette grande table d'été, le live inédit de Mathieu Conquet et quelques notes de Not Forget, un quartet mené par le claveciniste Jean Rondeau. Et à première vue, Aude Lavigne demandera ce midi à la critique d'art et commissaire d'exposition Julie Crène quelle œuvre est à l'origine de sa vocation d'artiste. Heureuse, très heureuse de mon côté d'être avec vous jusqu'à 14h. Elle est danseuse et chorégraphe japonaise. Formée au ballet classique, elle collabore depuis une petite décennie avec les plus grands chorégraphes contemporains, tels le Belge Alain Platel, dans la longue tournée d'Out of Context, avec Philippe Découfflé pour Iris, James Thierry, Denis Podalides ou encore le français Aurélien Bory, à la tête du 111, qui a créé pour elle et avec elle Plexus, deuxième de sa série Portrait de femme en tournée jusqu'en mai 2015. Avant de se lancer dans ses propres projets, dernière en date, Azobi. Lui est comédien et chanteur, co-auteur également de O Carmen, un opéra clownesque mis en scène par Nicolas Vial. Il brille surtout depuis la nuit des temps dans la peau de Pantagruel de Rabelais. À Brest, il sera le 27 septembre, puis en tournée à partir du 7 janvier dans toute la France. Ensemble, ils signent cet été une légère et savoureuse religieuse à la fraise, vue à Avignon par les festivaliers et revue, mais même pas corrigée, pour le festival Quartier d'été, à voir jusqu'au 9 août. Ne me demandez surtout pas où, parce que cette création a la bougeotte, et eux aussi d'ailleurs. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans ce studio. Le choix des lieux, qui le fait d'ailleurs ?
C'est le festival.
Ouais. C'est le festival qui organise les lieux. Il nous propose, par exemple, il nous proposait aussi d'aller jouer en prison à la maison d'arrêt de Nanterre.
Mais ça, c'était pas ouvert au public.
Non, c'était ouvert qu'aux prisonniers. Oui. C'était une expérience très forte. Mais voilà, on nous a proposé la grosse tournée, donc on l'a acceptée. Et du coup, jusqu'au 9 août, on est dans ce joli festival du Paris Quartier d'été.
Alors le 8, vous serez au musée de Cluny, le lendemain à la Gare du Nord, dans des squares à Bagneux, Nanterre ou Gennevilliers, vous étiez ou vous serez. Hier, c'était devant l'UGC du village Bercy, à Paris, qui programme tous les gros blockbusters de l'été. En arrière-fond, donc, en toile derrière vous, pendant que vous dansiez, pendant que vous mouviez les affiches de Les Expendables 3, Les Francis, La Planète des Singes, ou encore The Red 2. Il y avait comme un léger décalage, hein, quand même. Pour vous aussi, ouais. Olivier Martin-Salvant.
On se disait que, voilà, je crois que la presse écrite avait dit qu'on était un peu la Belle et la Bête, donc on était un peu le blockbuster du spectacle vivant de ce milieu d'été.
Un dessin animé d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça aussi dans la création que vous faites, Kaorito et Olivier Martin-Salvant.
Oui, on a trouvé une ligne sur raconter des contes japonais aussi, donc il y a quelque chose qui est proche de contes de fées ou contes de quelque chose qui est un peu, je pense aussi à Freak Show un peu, parce qu'on est, très différents au niveau de taille, donc ça exagère un petit peu à côté très hors de normalité. Donc dans cette cadre-là, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être commun avec des cinémas un peu dans cet endroit-là, du coup.
Mais alors, j'avais pas totalement faux dans les premières scènes de cette création, les premiers instants, de retrouver aussi des images de Totoro, de Miyazaki, quand vous êtes allongé sur le ventre d'Olivier Martin-Salvant et que vous le dérangez dans son sommeil, que lui grogne comme un gros animal. Vous l'avez vu ce film ?
Oui, j'en ai vu.
Il a bercé l'enfance de tous les Japonais, oui, et pas seulement.
Hein. Moi, mon enfance, c'était Miyazaki, donc j'ai grandi au Japon. Donc évidemment, je pense qu'inconsciemment, j'avais ça dans ma tête aussi.
Bien sûr. Oui. Et c'est marrant parce que Benjamin Reiner, qui a fait Ernest et Célestine, qui a réalisé ce film, ce joli
autre
film.
Autre magnifique film d'animation.
Il a beaucoup aimé notre spectacle. Et là, aujourd'hui, je lui ai envoyé un des spectacles au Carmen par la poste parce que on a envie peut-être de faire des choses ensemble, on s'est dit ça, c'est que ça l'a beaucoup touché, il s'est dit qu'on était un peu les vrais Ernest et Célestine, voilà, pour clore toutes ces formes de dessins animés qui ont pu nous inspirer sur ce spectacle. Oui.
Et d'ailleurs, c'est une création qu'on va raconter, mais qui peut parler autant aux adultes qu'aux enfants. Il y avait des jeunes dans le public hier encore, alors qui étaient un peu troublés quand Kaori Ito vous déshabille, Olivier Martin-Salvant.
Pas complètement, mais presque.
Pas totalement, mais presque. Vous restez en caleçon quand même sur la fin. La nudité, ça continue à interpeller. Hein.
À chaque fois, c'est différent les réactions avec la nudité. Ouais. On a eu, quand on a joué à Gennevilliers aussi, dans un endroit où vraiment... Là, on va pêcher des spectateurs parce que c'est des gens qui... Il y avait des travaux, ils ont vu une scène près des travaux, ils sont venus. Et là, il y a un moment où on commence à... Voilà, Kaori commence à enlever mon polo. Et là, il y a une mère qui récupère ses deux enfants et qui part en courant. Et là, on se dit, les enfants, ils n'avaient pas trop de problèmes avec ça. Et c'est la maman qui a eu des problèmes.
Oui, problème.
Et pour vous n'avez pas non plus de problème avec ça. Pour vous, par exemple, Olivier Martin-Salvant, ou à vous un peu moins, Kaori Ito, de se déshabiller en public.
C'est particulier, mais l'acte de faire du théâtre ou de la danse, c'est se mettre un peu à nu. Donc, pour moi, c'est la continuité, ouais. Et puis ça sert, parce que comme ce corps massif velu et qu'elle n'a pas le moindre poil, c'est aussi pour le spectacle que ça raconte nos différences.
C'est toujours, si c'est nécessaire, on le fait. Si c'est pas nécessaire, on le fait pas. Je pense que la nudité, ça devient si c'est nécessaire et que si... Parce que, par exemple, ça me dérange pas d'être nue sur scène, mais s'il y a pas de sens, ça me dérangerait. Et je pense que c'est la nudité, comment on peut habiller la nudité aussi en même temps. Donc, comment on peut faire le sens sur la nudité. C'est important de savoir parce que on fait ça comme ça parfois et que ça ne fait pas vraiment le sens.
Et là, pourquoi pour vous deux, ça prenait sens dans cette création, dans ce spectacle ?
Eh bien, Benjamin Lazare, qui nous a aidés sur le travail, disait très vite que ces peaux à nu, c'était intéressant parce qu'on arrivait vraiment... je ne vais pas trop dévoiler le spectacle pour les spectateurs, pour les auditeurs qui vont venir, mais au début, il y a quelque chose de...
Dévoilez-le un peu quand même, oui. Parce que c'est vrai que c'est très parisien, les prochaines dates.
Oui, c'est vrai. Donc, peut-être pour ceux qui sont moins
à Paris. Les auditeurs qui ne sont pas,
qui
passeraient pas par Paris, qui ne pourraient pas vous voir, ça vaut quand même le coup de le raconter.
En fait, oui, Kaori commence, je rentre, on croit que je suis seul, et en fait, Kaori est dans mon pantalon. Donc, c'est une image qui est assez forte.
Et vous formez ensemble une sorte d'animal, je dis bien animal, et pas un homme ou une femme à deux têtes, parce que vous marchez à quatre pattes. Hein.
Oui, c'est vrai.
Et Kaori est effectivement dans votre jogging, et ensemble vous vous déplacez, c'est un animal à deux têtes.
Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est vrai qu'au début, on se dit qu'on a du mal dans la dramaturgie, on se disait qu'on avait presque du mal à se séparer, et que petit à petit, en fait, la séparation aussi amène la nudité, le fait qu'on est tous les deux en caleçon à la fin, et qu'on se mette vraiment à danser, que ça devienne une explosion de joie... Ça a été trouvé assez rapidement et je crois que les spectateurs, ça prend sens très vite. Et puis à Avignon, ce qui était beau, c'est qu'on jouait dans le jardin de la Vierge. Donc, je ne sais pas, il y avait cette Vierge toute blanche et puis nos deux corps, on est assez blanc aussi de peau. Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on voulait comme des sculptures de marbre, je ne sais pas comment vous dire, mais il y avait quelque chose d'assez logique presque qu'on finisse...
Il faut dire qu'il est très poilu.
Oui.
donc ça se voit moins aujourd'hui. Hein.
et donc ça change beaucoup quand il enlève son t-shirt, quand on voit vraiment cet animal qui est caché derrière. Et moi, je suis toute petite comme ça, donc ça fait vraiment le sens de exposer nos corps encore une fois, je dis un peu freak show, mais ça fait un peu une sorte d'animal qui sont exposés comme ça. Et j'aime beaucoup cette niveau qu'on peut avoir avec, que c'est comme si on était des animaux, mais en fait, on est des humains aussi. Et je pense que dans ce sens-là, ça fait le sens de comparer dans cette, de corps dans cette manière-là.
Alors de l'art du poil, mais de l'art aussi du corps à corps, puisque vous êtes tour à tour sa monture, son oreiller, son adversaire, son partenaire de catch. C'est vraiment un corps à corps plein de tendresse, hein, entre pas de danse contemporaine, rock, claquette. Vous êtes mi-lutteur, mi-sumo tous les deux, et vous puisez, on le sent, vous, Kaori Ito, votre force en lui, et lui tire aussi sa grâce de vos gestes. Il y a ce partage, tout est disproportionné, c'est à la base, à l'origine du spectacle, de cette création, le XXL comme on l'évoquait, et le XXS, vous l'avez pensé, certains ont dit la Belle et la Bête, je trouve ça un petit peu cruel quand même, mais en tout cas voilà, on est dans cette démesure, cette disproportion, et vous parvenez en permanence à un équilibre.
Ouais, ça c'était assez magique, ouais, que... Dès nos premières discussions, on s'est rendu compte qu'on on est né dans l'opposé de la planète, elle au Japon et moi en France, et qu'on se ressemble beaucoup. Et on s'est rencontrés à Lausanne, au théâtre de Vidi. Et très vite, on s'est mis à danser, même avant presque de parler. Il y a une. Je sais pas, un côté.
Et on se croisait dans les couloirs et on dansait. Une petite danse, après on s'est séparés. Et un soir, on a fait une fête et on a dansé toute la nuit. Et là, on s'est dit que bah, peut-être on peut faire quelque chose. Et moi, j'aime bien quand ça commence comme ça, avec une fête. Le projet comme ça, ça fait vraiment... Il y a beaucoup de désir de se rencontrer aussi. Et après, je pense que dans une boutique, par exemple, quand on rentre, lui, il ne trouve pas sa taille et moi non plus. Donc, il y a quelque chose qui est très cohérent dans la différence de nos corps qui amène des difficultés aussi de s'adapter à la société à cause de nos tailles. Et quand on va au théâtre, lui, on lui prend comme un technicien et moi, on me prend comme un enfant. Donc, il y a quelque chose...
Le technicien et l'enfant.
Oui. Donc il y a quelque chose qui est un peu cohérent dans le partage de traitement par des autres aussi.
Alors Lost in Translation, mais en Suisse hein, cette fois. C'est donc là que la rencontre s'est faite, dans une atmosphère, une apesanteur un peu différente de celle que vous vivez aujourd'hui. Maintenant, vous vous connaissez un peu mieux. Ça fait quand même un certain temps que vous vous caressez, que vous vous côtoyez, que vous dansez ensemble. Si chacun était un miroir pour l'autre, qu'est-ce que vous voyez de vous, Olivier Martin Salvan, en elle, en Kaori Ito, aujourd'hui?
C'est vrai que c'est marrant, avec des interviews qu'on a fait ou les premières discussions qu'on avait, c'est comme vous dites très justement, moi, grâce à Kaori, je peux accéder à ma petite fille, on va dire. En moi, par exemple, Kaori, ça l'a tout de suite fait énormément rire, que j'ai un rire assez aigu, suraigu, et un peu un rire de fillette. Et c'est vrai que, bah, avec ce corps voilà, massif... plus d'un routier que d'un danseur classique. Je sais pas, la grâce et la légèreté aussi de pouvoir se permettre d'être léger, d'être dans la fluidité et d'être sensible, quoi. Ça me fait du bien de travailler avec elle et même faire ce spectacle et sentir que voilà, on peut. Bah, ça m'amène sur d'autres terrains, comme Kaori vous dira. Mais je pense que grâce à l'autre, on arrive à aller dans des terrains qu'on n'arrive pas à aller tout seul. Ouais.
Et vous, Kaori Ito, en vous regardant dans le miroir, Olivier Martin Salvan, à travers cette barbe rousse, qu'est-ce que vous voyez?
C'est vrai que la taille, bah, il me cache tellement que s'il était dans le miroir, je ne me voyais pas moi. Comment il est plus grand. Mais il y a quelque chose qui est très doux dans cet animal, Olivier, et qui me fait sentir qu'on est toujours en train de s'écouter sur scène, et on est toujours sur nous-mêmes, et j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout démonstrative vers les spectateurs, et c'est vraiment un partage après le spectacle. J'ai ses poils,
j'avais son ADN sous les ongles.
Oui, je suis mouillée parce que lui, il est mouillé, moi j'ai pas beaucoup de sueur, je transpire pas, mais à cause de sa transpiration, en fait, je suis mouillée, j'ai des poils partout, donc je sens qu'il y a une sorte de partage très profonde dans cette manière et aussi de se regarder sur scène. Il me regarde vraiment. Et c'est vrai que c'est très rare de travailler avec quelqu'un qui me regarde vraiment sur scène, qui veut partager le moment comme ça et qui sait écouter, qui sait aussi qui sait être très sensible. Et comme si on touche, on se touche et qu'on se touche pour la première fois. Aujourd'hui, on se touche pour la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on invente des histoires chaque fois comme ça. Et je peux aussi dire que c'est un jouet pour moi qui est tellement amusant de faire mon oreiller ou de marcher dessus. Enfin, on ne m'avait jamais dit de marcher sur le ventre de quelqu'un. Donc, c'est vraiment ça représente aussi la terre qui roule. C'est très primitif. Et comment il est très solide et il a une fusée de rugby. Enfin, il sait bien me rattraper aussi. Donc par rapport à des même des danseurs techniquement très très bien, je sais que il me rattrape toujours. Et ça c'est très c'est un dialogue constant constamment très très vif.
Et c'est, voilà. c'est presque vous qui êtes la plus dure dans ce spectacle, effectivement, et vous le plus doux, en tout cas dans ce que vous dégagez l'un et l'autre. Vous racontez aussi, Kaori Ito, que. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous, le sentiment, Olivier Martin Salvant, de mieux la connaître maintenant, Kaori Ito, de mieux la comprendre, parce que vous racontez que vous êtes tout en paradoxe à l'image de votre pays et de la société que vous représentez quelque part ici, que vous sentez représenté en France, parce qu'il y a, il y a un vrai décalage culturel. Est-ce qu'il parvient à vous saisir dans tous ces paradoxes?
Je pense que la vie est un paradoxe déjà, et même si apparence apparaît être une japonaise toute mignon, moi j'ai pas du tout ce sentiment-là en moi. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de force, et en même temps il y a beaucoup de fragilité. Mais on vit dans cette frontière aujourd'hui, on n'est pas noir ou blanc. Je pense que
cette poupée japonaise, beaucoup de chorégraphes avec lesquels vous avez travaillé, vous enfermez un peu dans ce rôle-là.
Un petit peu, oui, il y a beaucoup. Mais ça m'a amusée parce que c'est comme si je faisais toutes les caricatures qui étaient possibles. Et donc, à travers ça, j'ai beaucoup appris qu'est-ce qui n'est pas dit. Et dans mes spectacles, moi, j'essaye de dire qu'est-ce qui sont cachés derrière ces poupées japonaises. Parce que poupées pourraient avoir des esprits. Et c'est ça qui est intéressant, le contraste de poupée qui a une force, de ne pas juste dire que je ne suis pas un poupée, mais peut-être je suis un poupée, mais en même temps, derrière ça, il y a quelque chose qui est forte, parce que c'est un poupée aussi.
Est-ce que vous pouvez, vous, aujourd'hui, montrer aussi à travers vos créations et vos chorégraphies, c'est important à un moment de se libérer de l'imaginaire des autres, de l'univers des chorégraphes avec lesquels vous avez travaillé pour aller vers une recherche personnelle?
Justement, oui, ça m'a beaucoup fait désirer du coup de travailler sur ce sens-là. Et après, je pense qu'aujourd'hui, de aider tous ces chorégraphes avec qui j'ai travaillé, de faire le regard extérieur, de dire que je pense à ça pour votre travail, ça fait de bien aussi de faire un échange dans l'autre sens. Donc, je pense qu'on se, encore une fois, on est dans la frontière entre créateurs et entre quelqu'un qui aide à la création, et je pense qu'on s'inspire dans ce sens-là, dans cette génération des artistes. Et je pense que dans mon parcours artistique, je me rendais compte aussi que je peux me permettre d'être japonaise aujourd'hui. Et je peux dire que je vais travailler avec Yoshi Oida cet été. On va avoir une première au mois d'octobre. Et je pense que c'est la première fois aussi pour Yoshi de travailler avec une japonaise. Après toutes ces années qu'il travaille, avec Peter Brook. Donc, il y a quelque chose qui m'a évoqué dans le sens que je n'ai pas peur de dire aussi caricaturellement que je suis une japonaise.
Olivier Martin Salvant, vous avez dit une fois, je ne viens pas du théâtre poudreux à la parisienne, plutôt de la bouillasse provinciale.
Cette phrase est un peu hors contexte, c'est vrai que...
Oui, mais on va la recontextualiser. Ouais, ouais. Comment vous décririez le théâtre que vous aimez?
Il est multiple. Hein. En plus, je vais beaucoup, beaucoup au théâtre. Après, grâce à la collaboration que je vais avoir avec Brest, où Mathieu Banvillet...
Vous serez Banvillet, artiste associé hein, du
Quartz. Du Quartz, ouais. Mathieu Banvillet m'a proposé pendant 3 ans d'être artiste associé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il aime aussi mon regard que je porte sur le spectacle vivant. Et il me demande des conseils d'aller voir des spectacles. Voilà, je ne le conseille pas exactement à la programmation, mais il aime bien avoir mon avis. Et ça, c'est agréable aussi d'être associé à un théâtre et en plus pouvoir donner son avis sur une forme de programmation. Ça, je le remercie.
Prenez des chemins de traverse, oui. Hein, ou la tangente.
Oui, oui, oui.
Le théâtre que vous aimez bien. Est-ce qu'on peut dire qu'il est plus visuel que parlé, qu'il est plus burlesque et poétique que cérébral? Ou est-ce que ça, c'est un peu...
En fait, oui, moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'en 2004, on m'a proposé Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme, qui était mis en scène par Benjamin Lazare. Et ce qui était magnifique, c'est que c'était pas une idée de la pluridisciplinarité, c'était le cas, parce qu'on était en plein dedans, car il y avait des musiciens, des chanteurs, des danseurs et des comédiens. On faisait vraiment la comédie-ballet comme au XVIIe siècle. Et très vite, à 21 ans, je fais Monsieur Jourdain. On le tourne pendant 8 ans dans toute l'Europe. Je sais pas, j'ai été à bonne école, quoi. Ce Benjamin Lazare, vous avez dû en entendre parler sur cette chaîne, c'est quelqu'un qui a vraiment, je le trouve extraordinaire, qui a une pensée du théâtre magnifique. Et voilà, d'être à cette école-là, travailler sur cette prononciation restituée, puis travailler avec Valère Novarina pendant 7 ans, maintenant 8 ans, je travaille avec lui... Voilà, ou avec Pierre Guillois, où j'ai fait des spectacles vraiment comme Le Gros Lavache et le Ménade, qui sont une énorme farce, mais au fond, il y a un fond très fort. Moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant, comme je monte Pantagruel ou au Carmen, pour moi, le théâtre, l'enjeu est très très fort. C'est aussi notre point commun avec Kaori, c'est qu'on est des interprètes qui montent nos productions, qui montent nos spectacles. Et pour nous, le théâtre, ça, c'est très important. C'est-à-dire que, par exemple, cette expérience de Paris Quartier d'été, d'aller jouer en prison ou d'aller jouer dans des tout petits coins ou d'aller vraiment pêcher les spectateurs, les nouveaux spectateurs, pour nous, c'est très nécessaire et ça nous remplit. Et pour moi, le théâtre, c'est très très important. C'est vrai que quand on parle de décentralisation encore aujourd'hui, comment ça résonne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'est la fonction de la culture? On en est plein, on se pose vraiment la question.
Un théâtre populaire, ouais. Qui va au plus près de son public. Hein.
Populaire et en même temps très exigeant. Mais Novarina nous disait toujours, quand on est les acteurs, il faut que le spectateur soit touché individuellement. C'est pas un troupeau de moutons devant nous. Et 24 ans, on entend ça, ça fait du bien, quoi. Ou d'être plus bête que ce qu'on fait. Ça, c'est pour un acteur, c'est important, ou un interprète
de faire des choses stupides, mais sérieusement.
Ou de pas trop savoir pourquoi tu fais ça et que voilà. Et c'est voilà. Pour moi, quand je disais ça, c'est que moi, ce qui est très important en faisant des spectacles, c'est vraiment d'aller dans des endroits où il faut aller chercher le spectateur. Donc, je remercie encore Paris Quartier d'été pour ça, de faire ça. Et je pense que toute ma vie, l'idée, c'est de faire du Novarina même, qui est quand même... les gens pensent que c'est quelque chose de... Les gens lambda pensent que c'est quelque chose d'intellectuel et un peu chiant. Mais pour moi, c'est très important d'entendre ces paroles-là aujourd'hui.
Et s'autoriser aussi à revisiter et même à désacraliser parfois des grands répertoires classiques.
Hein. Bien sûr.
Mais du Bourgeois Gentilhomme au Pantagruel, terrien, ça, on l'a dit, vous l'êtes. Est-ce que vous êtes aussi rabelaisien?
Oui, on me l'a toujours dit quand j'étais adolescent, jeune adulte. Et de m'attaquer à l'œuvre de Rabelais, là, avec la langue de 1532, c'est aussi encore un terrain où on me dit pourquoi tu ne prends pas la traduction pour que les gens le comprennent mieux. La réponse, c'est que non, je vais beaucoup, beaucoup travailler pour qu'on entende parfaitement cette langue de 1532, pour qu'on n'ait pas une version traduite, quoi. C'est cette langue qui est tellement puissante. Et dans les salles, ce qui est magnifique, c'est que les gens font « Oulala, Rabelais, qu'est-ce que c'est ?» Et à la fin, même des jeunes qui étaient en difficulté quand on a joué à Chambéry, je crois, étaient bouleversés et ne voulaient pas que ça s'arrête. Après 1h40 de Rabelais dans son jus.
Je n'entends pas, moi, Kaori Ito. Vous l'entendez, vous, cette langue? Rabelais dans sa langue, dans le texte et surtout dans votre voix, Olivier Martin.
Oui,
Salvan,
je
ça
suis allée voir Pantagruel, oui. Oui, mais c'est aussi, pour moi, le théâtre, c'est très visuel. Donc, on comprend quand même ce qu'il dit à travers son corps. C'est ça qui est assez agréable avec Olivier, c'est qu'il est très corporel aussi. Il a des langues corporelles qui met une évidence dans le texte aussi. Donc ça, ça aide beaucoup.
Alors pour vous, la gageure, le pari, ce serait de jouer le petit pousset prochainement, c'est ça?
C'est ça, nous deux, ouais, c'est ça.
Non, vous, Olivier
Martin. Moi, ouais. De tout faire. Faire
et vous serez l'ogre.
Voilà. Oui, c'est ça.
Kaori Ito.
Voilà.
Ouais, c'est vrai que lui, il pêche vraiment des spectateurs aussi. 5 minutes avant le spectacle, hier, il était allé chercher au cinéma des spectateurs. il est très communicatif. Et,
c'est important. Moi, je sais que je me dis toujours, quand on va au théâtre, les gens, je me dis, ils sont quand même habillés, ils ont fait de la route, ils se sont posés sur des fauteuils, ils ont payé leur place. Donc, ils ont débité de leur compte. Je ne sais pas, je me dis que c'est très, très important ce qui se passe.
Faites-nous vivre quelques instants, Olivier Martin Salvan, cette voix, cette langue de Rabelais.
De Rabelais, qu'est-ce que je peux vous raconter? Oui, je vais vous faire un bout.
Oula, il se redresse. Il se tient droit.
Oui, si vous entendiez, ça serait chouette qu'on entende du Rabelais à la radio. J'essaye de me repositionner dans le texte. Tiens, je vais faire un bout de... Ah, la lettre au père. Tiens, c'est bien d'entendre ça. Alors, la lettre de Gargantua à Pantagruel. Très cher fils, je rends grâce à Dieu, mon conservateur, de ce qu'il m'a donné pouvoir voir mon antiquité chenue refleurir en ta jeunesse. Car quand mon âme... Quand mon âme laissera cette habitation humaine, je ne me réputerai totalement mourir. Ince, passer d'un lieu en autre, attendu qu'en toi et par toi, je demeure en mon image visible, vivant, voyant et conversant entre gens d'honneur et mes amis. Par quoi, mon fils ? Je t'admoneste qu'emploie ta jeunesse à bien profiter en études et en vertus. Tu es à Paris, tu as ton précepteur Épistémon. J'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement. Premièrement, la grecque, comme le veut Quintilian. Secondement, la latine, et puis l'hébraïque pour les saintes lettres, et la chaldaïque et arabique pareillement. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique, je t'en donnais quelques goûts quand tu étais encore petit, en l'âge de 5 à 6 ans. Poursuis le reste. Et quant à la connaissance des faits de nature, je veux que tu t'y adonnes curieusement. Qu'il n'y ait mer, rivière, ni fontaine dont tu ne connaisses les poissons, tous les oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes et fructices des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries de tout Orient et Midi, rien ne te soit inconnu.
Que c'est dur ce qu'on vient de vous demander de faire.
Ouais,
merci
là,
beaucoup.
Mais c'est la lettre au père,
à
je me dis qu'il faut tout l'entendre.
Sujet à vif.
Ouais,
hein.
Sujet à vif.
Et pour terminer peut-être cette grosse production France culturienne, on pourrait entendre votre voix telle qu'elle sillonne aussi ce spectacle qui se joue actuellement dans le cadre de Paris Quartier d'été, Kaori Ito. Vous chantez, vous parlez en japonais. Je serais incapable de dire ce que vous nous dites.
Ah oui, je peux raconter un conte japonais. Mais vous n'allez pas comprendre le sens.
Non, mais vous allez nous l'expliquer. Mais vous chantez aussi dans le spectacle, dans La religieuse à la fraise.
Oui.
Hein. Qu'est-ce que vous chantez ?
C'est un prière bouddhiste.
Ah.
Nam-myo-ho-renge-kyo, nam-myo-ho-renge-kyo. C'est ce qu'on prie.
Une prière bouddhiste en sortant de la lettre de Rabelais, la lettre au père.
On est bien là.
Ça marche, hein ? Ne pas se contenter de jouer, ne pas se contenter de danser. C'est un peu votre leitmotiv à tous les deux. Dans la vie.
Dans la vie
Dans la vie, de prendre des risques en fait. Ouais. C'est de faire tout ce qu'on ne sait pas faire.
Qu'est-ce que vous ne savez pas faire encore aujourd'hui ?
Alors
quel territoire
choses.
Vous allez aller explorer dans les prochaines années ?
Toi, tu vas quand même faire un spectacle.
Oui, moi, je vais faire un spectacle avec mon père, qui est un sculpteur. Et c'est la première fois que je travaille avec ma famille. Donc, ça va être très intime et je vais raconter beaucoup d'histoires très intimes. Pourquoi je suis ici, pourquoi je suis déracinée sur Fukushima, sur la catastrophe que j'ai vécue aussi avec ma famille. En même temps, dans le sens très comique, parce qu'il y a aussi cette chaos. Quand on vit dans un panique, tout le monde réagit en comique. c'est très absurde. Et j'aimerais bien raconter aussi comme j'ai pensé que j'étais différente quand j'étais petite. Et j'ai pensé que c'était je pouvais respirer dans la piscine. Mmh. Où j'aimais beaucoup manipuler des poupées Barbie, parce que j'ai pensé que ça représentait une femme européenne blonde, que j'aimais beaucoup la regarder tordue, des petits trucs comme
mal,
ça, des souvenirs. Et avec mon père, je pense que c'est la première fois qu'on va faire quelque chose ensemble, et ça c'est un des risques de passer par des émotions internes.
Ouais. Avancer en explorant... En explorant d'où vous venez. La danseuse et chorégraphe Kaori Ito et le comédien Olivier Martin-Salvan sont les invités de la première partie de cette grande table d'été. France Culture, il est 13h15. Tout de suite, un acteur majeur de l'art contemporain, une œuvre, un déclic. Avec ce midi, la critique d'art Julie Crène. C'est à première vue, signé Aude Lavigne.
Julie Crène fait partie de la nouvelle génération de critiques d'art et de commissaires d'exposition, docteur en histoire de l'art. Elle a défendu une thèse sur les pratiques textiles. Elle mène par ailleurs des recherches sur l'art contemporain dit africain. Au téléphone, Julie Crène répond à notre question. Quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain? Et à première vue, Julie Crène, vous nous répondez.
Mon premier rapport à l'art s'est effectué avec la découverte de l'œuvre de Frida Kahlo, de ses peintures. D'abord parce que, à mes yeux, Frida Kahlo est une artiste proto-féministe, donc avant le féminisme, qui a introduit dans son œuvre un rapport au corps et à l'expérience des femmes qui était tout à fait inédit, qui a introduit un rapport au monde ouvrier et un engagement social et politique tout à fait inédit aussi pour l'époque. Et un rapport aux minorités culturelles, et particulièrement envers les Indiens mexicains, dont elle se sentait très proche. Donc pour toutes ces raisons, j'ai eu envie de défendre le travail de Frida Kahlo, et c'est aussi pour toutes ces raisons que je me suis concentrée sur les pratiques contemporaines liées au féminisme et au postcolonialisme. Donc j'aime l'art engagé, l'art résistant et l'art enragé. Et donc Frida Kahlo m'a amenée vers... les artistes contemporains, donc des artistes comme Martha Rosler, Fess Ringgold, Mona Hatoum, Rota Castro, Kader Attia, Claude Lévesque, Zanele Mioli ou Giulia Andreani, des artistes qui sont tous engagés et qui mènent une lutte contre un système par l'art, un système qui génère une somme d'injustice, d'oubli et d'exclusion.
Et pour revenir à l'émotion première, donc Frida Kahlo, pour vous, l'artiste donc mexicaine, pour vous, Julie Crène, quelle œuvre, plus qu'une autre, a pu vous frapper?
Donc, de Frida Kahlo, ce qu'on connaît le mieux, c'est ses autoportraits. Mais une œuvre en particulier me touche ou est plus forte que les autres, c'est une peinture qui s'appelle Henry Ford Hospital, où on voit Frida Kahlo étendue sur un lit d'hôpital. Donc ça se passe après une fausse couche. Elle est entre un milieu hospitalier, un désert, et à l'arrière-plan, on voit un arrière-plan d'une ville américaine industrialisée. Et donc, à mon sens, c'est la première fois que l'expérience féminine est présentée d'une manière aussi crue et aussi radicale. C'est... une artiste, une femme artiste, qui représente pour la première fois son histoire, son expérience, et qui en même temps traduit une expérience collective féminine, et d'où le fameux slogan féministe qui dit que le personnel est politique. Et pour moi, c'est vraiment représentatif de ce proto-féminisme.
Julie Crène, co-commissaire de l'exposition collective « Sans tambour ni trompette, 100 ans de guerre » qui débutera à la rentrée le 13 septembre jusqu'au 9 novembre à la grainerie de Huy. Depuis la Grande Guerre partout dans le monde, les conflits n'ont pas cessé. Réflexions avec des artistes invités autour de la mémoire, de la commémoration ou encore bien sûr de l'histoire. Olivier Martin-Salvan, votre déclic, vous sur scène, vous nous en parliez tout à l'heure, c'était le Jourdain du bourgeois gentilhomme. Mais quelle mise en scène
une mise en scène dans laquelle vous n'avez pas joué, vous a vraiment tilté, provoqué cette vocation, cette envie d'être comédien?
En fait, quand j'étais jeune, j'étais, comme on parlait de la bouillasse de province, c'est que j'étais vraiment dans un village et j'avais aucun accès au théâtre. Du coup, je connaissais vraiment rien, je voyais la télé. Puis quand j'ai du théâtre à la télé, je faisais un peu comme tout le monde, j'étais un peu effrayé. Et en fait, je me rappelle d'avoir vu des extraits des spectacles d'Ariane Mnouchkine. Ça m'avait marqué très fort. Ouais. Je m'étais dit qu'il y avait vraiment ça m'avait vraiment marqué. Et aussi, la comédie française. Je sais que souvent, il y avait des choses... J'avais déjà, à cette époque-là, enfant, j'avais déjà la conscience qu'il y avait des choses plus ou moins bonnes, mais je me disais, même le petit rôle est extraordinaire. Je me disais que, voilà, que cette troupe me faisait rêver.
Kaori Ito, une chorégraphie qui vous aurait fait passer du classique au contemporain?
William Forsythe. C'était parce que j'avais 17 ans, je me suis demandé pourquoi on mettait des colons blancs comme des Européens et comment on mettait le perruque de Jean-Sébastien Bach. Et j'ai demandé à mon prof de ballet classique pourquoi on fait ça. On vient pas de la même culture. Et elle a dit non, mais bon, il y a une sens et tout ça. Et que je me suis dit que je vais arrêter le ballet classique. Et j'ai regardé des magazines comme Télérama et il est marqué la danse contemporaine et je suis allée dans tous les spectacles dont il y avait William Forsythe. Il est dit comme classique, néoclassique, mais ça m'a beaucoup changé ma carrière.
Et voilà comment naissent les danseuses et les comédiens. Merci beaucoup Kaori Ito, merci à vous Olivier Martin-Salvan, bonne continuation. Merci. On redonnera sur franceculture.fr, sur le site de l'émission, toutes les dates de vos tournées et de vos prochains spectacles. Dans quelques instants, le chanteur Winston McAnuff, les musiciens Fixie et Cyril Atef et le performeur Constantin Leu nous rejoindront autour de la grande table d'été. À 13h20 sur France Culture, une page se tourne avec la session live du rendez-vous programmé par Mathieu Conquet et enregistré cette année dans nos studios. Not Forget, un quartet mené par Jean Rondeau, le claveciniste qui participait cette année à l'intégrale du clavier bien tempéré de Bach à la Cité de la Musique à Paris, passe régulièrement au piano pour improviser côté jazz. À ses côtés, Virgile Lefebvre au saxophone, Erwan Ricordo à la contrebasse et Sébastien Grenat à la batterie.
Thank you.
quand des notes de musique se perdent. Note perdue, note forget, live inédit pour France Culture de ce quartet. Le titre s'appelle Traces ou Traces. Le disque Réconciliation, cordes et âmes. Il est 13h25 sur France Culture.
Jusqu'à 14h, la grande table
d'été,
Olivia Gesbert.
Ils forment un orchestre complet à eux tout seuls. Ils seront tous les quatre aux escales de Saint-Nazaire demain, mais séparément. Leurs routes se sont déjà croisées. Écoutez, entre autres, la plage 2 de l'album A New Day. Fin du suspense, deux fois deux inséparables. D'un côté, Cyril Atef, le percussionniste, batteur, bonjour.
Bonjour.
Et le performeur, Constantin Le, bonjour.
Bonjour.
Ensemble, ils forment Congo Punk, un projet solo devenu groupe aux collaborations multiples, de l'improvisation aux albums. Le deuxième, No Guns, More Drums, est arrivé cette année dans les Bac avec le printemps. De l'autre côté, traduit par l'interprète Xavier Combes, le Jamaïcain Winston McAnuff, hello.
Hello.
Et le Français Fixie de Java, une voix, un accordéon, des dreads, des cheveux raides et une même recherche. Oui, mais laquelle? On va peut-être vous poser tout de suite la question à vous, Fixie. Pourquoi vous avez choisi de vous accorder tous les deux, vous, Winston McAnuff, votre voix avec l'accordéon de Fixie?
Pourquoi? Bah parce qu'on l'a bien senti. Je pense que c'est une histoire de vibration entre nous et de un peu de hasard aussi, de magie. À l'époque, je faisais beaucoup de Java et Erwan, le chanteur, m'avait parlé de Winston. Donc, on s'est rencontrés un soir dans un studio pour essayer des musiques et ça. Ça a pris sans trop qu'on se parle, en fait, sans trop de direction. Et d'ailleurs, Cyril nous a rejoint quelques jours après pour commencer ce travail. C'était en 2006, un album qui s'appelle Paris Rocking.
Cyril Atef, mais yeah. Qui n'est pas là pour être avec vous aujourd'hui. Il a choisi son camp.
Non, mais je vais participer un peu avec les garçons. Je les aime bien.
Winston McAnuff, il y avait une évidence d'accorder votre voix avec l'accordéon de Fixie.
Well, it's a part of my roots from my dad, the accordion.
L'accordéon fait partie des racines de mon père.
I didn't get the chance to work with the instrument.
Je n'ai jamais eu la possibilité de me frotter à quelqu'un qui joue de l'accordéon avant de venir en France et de rencontrer Fixie.
I didn't have to think about.
Donc, je n'ai pas réfléchi plus que ça, voyez.
It was like spontaneous.
L'accordéon pour moi, c'était quelque chose de spontané, tout à fait une évidence, comme vous dites.
Votre père, qui était pasteur et qui jouait effectivement de l'accordéon dans les offices. Comment il est arrivé en Jamaïque cet accordéon?
Well, maybe it's because of I don't know. Maybe it's because of his Irish roots.
Je ne sais pas. Ça doit être lié à ses racines irlandaises.
Yeah, I think it's coming from a Scottish Irish.
Irlandais, écossais.
My granddad
parce
came from
mon
that
grand-père,
area,
lui, venait de là. Ireland. Il venait d'Irlande, mon
And
grand-père.
They came to Jamaica.
Et ils sont donc allés en Jamaïque.
Mm. Mais c'était un instrument assez pratiqué déjà en Jamaïque.
Not really, you know.
Pas vraiment pratiqué,
not really,
non.
Not on a wide level, you know. You know, but you have a couple of accordions there.
Mais on voit quand même un peu, et on entend pas mal d'accordéons quand même en Jamaïque.
I personally don't know an accordion player like, you know, like.
Personnellement, si vous me demandez de trouver le nom d'un accordéoniste en Jamaïque, là, personne ne me vient à l'esprit, alors que je pourrais vous citer des dizaines de guitaristes. Enfin bon, ça existe. C'est rare, mais ça existe, l'accordéon en Jamaïque.
Alors que si vous demandez à Fixie le nom d'un accordéoniste français, ça lui viendra tout de suite. Et même plusieurs à la fois. C'est vrai que c'est un instrument Fixie qu'on associe souvent aux Balmusettes, à Joe Priva, à Yvette Horner, à Marcel Azola, à Fredo Gardoni. Et j'en passe à l'Argentine aussi un peu, hein, si on sort des frontières françaises. Mais beaucoup à travers Raoul Barbosa, qui a vécu en France et importé sa musique avec. Pourquoi l'accordéon, on le cantonne souvent dans nos esprits français, en tout cas à nos frontières? C'est un instrument qui est beaucoup plus universel qu'il en a l'air.
Complètement universel. C'est le meilleur.
C'est un vagabond.
C'est le meilleur passeport pour voyager, l'accordéon. Il y en a partout, à Madagascar, en Angola, Brésil, Chine, Russie, pays de l'Est, pays du Nord. C'est vraiment présent partout. Et c'est une question que je me pose tout le temps. Pourquoi est-ce que pour les Français, mais même pour l'accordéon est associé à la France. C'est assez bizarre. Je pense que on a tellement. Je pense que la France était puissante culturellement avant-guerre et après-guerre, avec avec toute l'imagerie française, une culture très, très puissante. Et l'accordéon y était associé avec la baguette,
le
balmusette.
Et Yvette Horner sur le Tour de France.
Edith Piaf aussi, qui a été
quand
même une super ambassadrice de tout ça. Et je pense que ça nous colle toujours à la peau. Donc après, à nous de se servir de ce terrain, de ces racines, de cette imagerie, même si elle est complètement cliché, mais pour en faire quelque chose. Parce que c'est une force, en même temps c'est une faiblesse, parce que ça nous réduit à quelque chose, mais on peut le transformer.
Et vous, vous n'avez pas voulu cet instrument le réduire à cet imaginaire-là, justement. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne venez pas de l'accordéon, ça n'a pas été
non,
votre
pas du
premier
tout,
instrument.
Je sais pas,
il y a eu le piano d'abord,
ouais, la
le
batterie,
trombone.
Je ne me considère pas accordéoniste du tout. Non, moi, après, c'est plein de prise de conscience que j'ai eu il y a 15 ans maintenant par rapport aussi à un manque de lien entre notre passé, nos racines, notre identité folklorique en France, qui pour moi était un peu inexistante, et ce lien là avec une musique moderne. Et en voyageant par exemple au Brésil notamment j'ai vu que justement les jeunes, ils arrivaient complètement à relier ce folklore, ce passé avec la modernité. Et donc voilà, c'était ça une de mes idées pour lesquelles j'ai décidé de faire de l'accordéon.
Le mariage des racines reggae de Winston McAnuff avec l'accordéon de Fixie. Quelques notes de Let Him Go, très Panam Panam.
Johnny never hear what him mama said. Jump on market truck on a West Kingston. Got in the ghetto in the bad company. Now them give them gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. Put them in the ghetto, got to let them go. Let them go, let them go. Someone to get a guy to let them go. Johnny never knew.
Winston McAnuff, quand vous êtes sur scène, quel climat vous cherchez à installer?
No, I try to be normal. Like I'm.
J'essaie d'être normal.
Yeah, because that's when you can capture that true essence.
Parce qu'il faut capturer l'essence.
It has to be totally without ego.
Et il faut faire abstraction de son propre ego.
As there's any ego, like it's the sound.
Si on.
It's like false. Like you're
trying to. Tu montres de son ego, ben ça sonne faux, comme si on essayait. Faisait semblant de faire quelque chose.
So the fight is to remain normal.
Donc
you know,
c'est une espèce de lutte. Il faut rester normal malgré l'excitation.
That way it becomes magical.
Et comme ça, on arrive à toucher du doigt la magie.
Cyril Atef et Constantin Leu de Congo Punk, eux, cherchent à nous mettre en transe. Comment on met un public en transe?
On fait de la trange.
C'est un ça, mélange. C'est votre invention entre transe et étrange. Hein,
ouais,
c'est
exactement.
Ça c'est étrange.
Comment on arrive à mettre les gens en transe? J'ai un petit instrument, c'est un piano à pouce.
Sans artifice, hein, sans drogue, on est d'accord.
Ouais, exactement, sans artifice, sans drogue, juste de la sueur.
Parce que ça va plus loin sans drogue.
Et je sais pas, j'ai un instrument qui. C'est Konono numéro 1, c'est un groupe congolais qui m'a inspiré. C'est le Sanza, la Nikembe, le Kalimba, que je passe à travers la distorsion. Et quand j'ai commencé à jouer cet instrument, je me suis mis en transe moi-même. Je te jure, c'est vrai. Je me suis dit, peut-être ça pourrait marcher avec le public aussi. Et j'ai créé des morceaux un peu pour, dans cette optique-là, de faire un peu un maître du désordre, quoi. Et j'ai trouvé,
le barbu.
Dr. Kong, c'est un des grands maîtres du désordre, voilà. Et au lieu de prendre un musicien, j'ai pris un performeur. Il y a 10 ans.
Il a fait le test avec le piano à pouce pour voir si ça me mettait en transe. Et ça a marché tout de suite. Quoi.
Ah oui, vous étiez bon public peut-être aussi, ou prédisposé, non?
Je ne sais pas, mais ça marche quasi à chaque fois. Hein, en tout cas, sur scène, tout le temps.
Et alors Constantin, le Dr Kong, la performance artistique, elle est par nature pluri ou interdisciplinaire. Mais comment vous accompagnez Cyril Atef durant les concerts? Est-ce que vous vous calquez sur sa partition? Est-ce que vous pensez vos performances indépendamment dans votre chambre, dans votre coin
est-ce qu'elles sont très répétées, très improvisées? Ça fonctionne comment?
Alors pour le nouveau spectacle, pour le nouveau disque No Gun More Strum, on était... tu aimes mon accent?
ça veut dire pas de flingue, plus de tambour, c'est
exactement.
Ça
on peut le faire en français. No Guns More Drums.
Ouais, c'est ce que j'ai dit à peu près. Quoi.
C'est le deuxième titre ça.
Oui. Et donc c'est plus scénarisé, donc sur chaque chanson on a élaboré quelque chose de visuel, de l'ordre performatif, mais structuré, mais malgré tout en gardant le cœur improvisé qui fait l'origine de Congo Punk.
La pièce maîtresse est un cube sur scène.
Tu révèles le cœur, oui. Voilà.
Alors, entre la danse et la sculpture, mais vous jouez avec tous les objets que vous trouvez sur votre route.
Toute la route et la préparation. 80% du nouveau show est scénarisé avec l'esprit de liberté qui nous amène à composer avec les sons qui arrivent quand il fait son impro. Ceux de Cyril Atef et même parfois ceux du public. S'il y a une claque quelque part dans le public, peut-être que Cyril peut le reprendre. Et moi de même, s'il y a un objet qui traîne, qui arrive, je l'incorpore dans la performance.
Oui, Winston McAnuff, Fixie. Est-ce qu'on peut résumer votre album en termes d'état d'esprit en disant que c'est quand même d'abord dans une veine très optimiste? Il y a cette idée de se relever, d'y aller, de tourner la page.
Ouais, je pense que c'est on est deux optimistes et on a mélangé nos énergies, je pense, pour faire quelque chose d'assez solaire, d'une invitation. Le titre Garden of Love, c'est ça aussi, c'est bienvenue dans notre monde, et ce monde-là, c'est quelque chose qui nous est apparu à tous les deux parce que c'était d'abord notre rencontre, nos sensibilités, notre histoire différente pour en faire quelque chose qui nous a plu en fait. Donc voilà, c'est ça, on essaie de transmettre ça sur le disque et sur scène aussi, en communiquant des bonnes choses. Et puis surtout, nous, on a du plaisir à être ensemble, à jouer ensemble et à recréer en fait à chaque concert aussi quelque chose de nouveau, parce que rien n'est... C'est un peu comme Congo Punk, je sais pas si on fait de la tranche, mais
Bienvenue.
On recherche aussi cette forme d'état hypnotique, d'état second, mais avec des instruments acoustiques.
Moi, je dirais, vous avez bien analysé, je trouve que ce disque est vraiment solaire et il dégage un truc très positif. Pour moi, c'est comme deux enfants, Winston et Fixie, quoi. Et je me sens aussi comme un gamin avec eux, qu'on a enregistré.
Deux enfants, mais qui ont quand même passé le stade d'une certaine maturité. On a le sentiment aussi que dans cet album, vous êtes aussi dans une transmission par rapport aux générations d'après, à vos enfants.
Of course.
quand Cyril dit l'enfance, c'est dans le sens le plus noble qui soit. C'est dans l'enfance de l'homme. Et c'est pure poésie. C'est magnifique. C'est léger.
C'est ça qu'on essaie en tant qu'artiste, en tout cas, de rester très, très enfant. Quoi, de ne pas perdre cette innocence qu'on a en nous.
Et parmi les titres, Cyril Atef, de l'album, il y a l'oriental Lady Gaza qui résonne tout particulièrement en ce moment.
Oui, exactement.
Vous allez le jouer ce soir à Brest, demain à Saint-Nazaire?
Exactement, je le joue tous les soirs. J'adore jouer ce morceau, j'adore chanter ce morceau. En fait, j'imaginais une femme orientale coincée dans cette prison qu'on appelle Gaza. Et qui, sa voix porte au-dessus des murs, on peut appeler ça le mur de la honte, et même les Israéliens entendent sa voix, les Palestiniens, et tout le monde l'adore en fait. C'est un peu un clin d'œil à Lady Gaga, mais avec une voix magnifique, quoi. Une chanteuse orientale, mystique, hyper sensuelle et qui réunit les peuples en fait.
Oui, tout le monde l'aime malgré les origines différentes.
Cyril Atef, avec Congo Punk, vous serez demain aux Escales de Saint-Nazaire, sur scène. Mm-hmm. Mais à peu près au même moment, vous allez vous faire concurrence. Bizarre, hein ? Il y aura Winston McAnuff et Fixie.
Voilà.
Alors, les uns, Winston McAnuff et Fixie, seront à 21h30 sur la scène du Port. Vous, de votre côté, vous serez à 22h à la salle Jacques Brel. Mm-hmm. On peut vous réunir ?
On va jouer ensemble maintenant.
Ouais.
Allez.
Et je vais les accompagner, sotto voce.
Ah, mais j'ai envie de vous voir et je raconterai. Mais après, peut-être alors, ce que vous allez nous faire, Constantin Leu, pendant ce temps. Hein ? Arrêtez de manger, travaillez votre voix, votre souffle.
Je continue.
Fixie à l'accordéon, vous êtes dans mon dos, je vais essayer d'imaginer tout ce qui se passe. Winston Macanoff à la voix. Et vous, Cyril Atef, qu'est-ce que vous tenez dans votre main?
Ça, c'est le tambour mélodique.
Le tambour mélodique.
C'est un ami à Montpellier qui a fabriqué ça. C'est comme une batterie en un. Grosse caisse, caisse claire, ça c'est... Grosse caisse, caisse claire.
Grosse caisse, caisse claire. Charlet. On les croise ensemble sur l'album de Winston Macanoff et Fixie, A New Day, notamment sur la plage 2, si vous voulez l'écouter, 1, 2, 3. Mais là, ce qu'ils vont nous interpréter dépasse l'entendement. C'est une improvisation spécialement pour vous, auditeurs de France Culture. Merci beaucoup, messieurs. Et pendant ce temps, Constantin Leu a mangé.
Il a aussi nourri la machine, ou plutôt vous, Cyril Ateuf, donné du carburant et créé une œuvre d'art à base de confiture
De trifle. Hmm. Je viens d'ingérer 600 grammes de trifle en direct.
Voilà, ça ressemblera à ça aussi, les concerts des prochains jours, pour les aspects visuels, vous nous promettez autre chose.
À peu près.
Vous arrivez à le contenir
un peu. J'essaie de contrôler l'animal et le mettre un peu en cage, mais c'est difficile.
C'est pas évident, hein, je sens pour vous. Mais vous avez fait ce choix-là il y a quelques années.
J'ai fait ce choix-là.
Pris le risque.
J'ai pris le risque, ouais. J'aime les risques.
Nous aimons le risque.
Winston McAnuff, qui vous a appris à chanter? C'était votre père, vous avez commencé à chanter... Au temple?
No, I learned to sing from an early age from we call it
j'ai
Sunday
appris à
school.
Chanter dès mon enfance à l'école
early,
du dimanche.
Early church going for
en
children.
Réalité, c'est un enseignement religieux
early
pour les enfants.
Songs, you know?
Et là, on apprend à chanter.
So it's from that stage,
c'est à partir de là que je me suis mis à chanter et de
I
manière inconsciente, j'ai appris à chanter juste.
By singing constantly, you know, in the church.
C'était constant, on chantait au temple et puis chanter en écoutant la radio. Il y avait pas mal de Desmond Dekka. Moi j'étais un grand fan de Desmond Dekka. Une grande source d'inspiration pour moi.
Et les grandes voix aujourd'hui pour vous, les voix actuelles de la scène contemporaine?
Major voices in the music? Yeah, well. There are many, you know, like the late Bobby Womack.
Bobby Womack,
you know,
Bobby Womack.
Somebody who inspired most of us as
on a tous été plus ou moins inspirés par lui. Donc
all the greats, because we
tous les grands, on devrait dire, parce qu'évidemment, à la Jamaïque, you know, on est exposé à ça. La world de musique, on est exposé à ça.
Et Saint-Nazaire, justement, c'est un festival de musique du monde. Les escales où vous retrouverez tous demain soir. Autre grand nom de la musique, c'est Prince. Je ne sais pas si vous savez, mais cette année, on fête un anniversaire, le trentenaire de son album Purple Rain.
Uh-huh.
C'était en 1984. Il avait alors que 26 ans qu'il sort cet album qui est un carton phénoménal. Mm-hmm. Pour l'occasion, une réédition doit voir le jour chez Warner. Mais il semble que Prince ait quelques sujets de discorde avec sa maison de disques. Donc on attend toujours de
toujours.
Voir. C'est en tout cas l'occasion de faire le point sur cet album, ce titre phare, mais aussi ce film avec Olivier Cachin, qui est spécialiste des musiques noires et du hip-hop. Il est l'auteur de l'ouvrage Purple Rain. Non, je le dis mal. Purple Rain.
Purple Rain.
Non, en français, règne, du verbe régner, purple, règne.
C'est vrai ?
En français, du règne. Non, c'est le titre du bouquin.
C'est le titre de sa biographie qu'il a consacré à Prince, qui est paru en 2012. Adrien Nazilli l'a rencontré au milieu de ses vinyles, les vinyles qui tapissent son appartement.
Olivier Cachin, Purple Rain de Prince est sorti en 1984. C'est l'album le plus vendu de Prince à ce jour, mais c'est aussi la bande originale du film du même nom. Est-ce que le film a été fait pour la musique ou la musique pour le film ?
Je crois que Purple Rain, d'abord, c'est l'apex de la carrière de Prince, aussi bien commercialement, ça c'est incontestable, que artistiquement. Beaucoup, en tout cas, des fans seront d'accord pour dire qu'il n'a jamais fait mieux ou aussi parfait, en tout cas, même si Sign of the Times est un excellent album. Et je crois que le film est peut-être un petit peu en dessous du disque, parce que c'est vrai que autant le morceau Purple Rain est vraiment l'apothéose de sa carrière, un morceau qu'il continue à faire d'ailleurs en rappel à pratiquement tous ses concerts, autant le film a quand même pris un petit coup de vieux et reste très marqué années 80.
Mais est-ce que ce film justement c'était pas une arme publicitaire à l'époque parce qu'il a fait un carton au box-office? Dans la manière de vendre un CD, c'était nouveau à l'époque?
Je crois que c'est très loin d'être un hasard quand on voit que Purple Rain est sorti 2 ans après le clip de Billie Jean, qui est le premier vidéoclip qui a révolutionné l'histoire de la musique, qui a montré que Michael Jackson était le premier des artistes mondiaux qui avait compris que l'image était cruciale. On parle d'une époque où MTV vient à peine d'apparaître, où les artistes noirs n'ont pas encore l'amplitude qu'ils ont acquis par la suite. Donc bien sûr, Purple Rain, c'est un petit peu la réponse dans cette décennie Annie, qui a beaucoup opposé Prince à Michael Jackson, à un artiste qui déjà, quelques années avant, avait montré que l'image était l'élément clé pour assurer la vente d'un support musical. C'est un film qui est en fait un petit peu comme l'était 8 Mile pour Eminem, une espèce de fausse biographie. C'est-à-dire que ça n'est pas l'histoire de Prince, mais c'est l'histoire d'un artiste qui pourrait être Prince, avec un groupe ennemi qui est The Time, qui est en fait un groupe satellite de la galaxie Prince. Donc il y a vraiment quelque chose de très personnel dans ce film, quelque chose qui est en fait vraiment l'histoire d'un artiste qui galère, qui va s'en sortir, qui joue dans des petits clubs et qui est amené à une grande carrière. Enfin, c'est très mégalomane, c'est très Prince. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one, doctor, everything will be alright. Instead of asking him how much of your time is left, ask him how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than in the afterworld. This life, you're on your own. Est-ce que Purple Rain, on peut dire que ça incarnait quelque chose à l'époque? Purple Rain, ça incarne surtout le triomphe au sommet des parades, puisque l'album est resté, je crois, 14 semaines aux États-Unis, numéro 1, incroyable, d'un artiste qui était très improbable, parce qu'il faut quand même rappeler que Prince, visuellement, a quand même un look assez particulier, il fait 1m58, il a des morceaux qui ne sont pas très, très accessibles. Hein. Ses précédents albums, aussi magnifiques soient-ils, 1999, Controversy, sont des albums qui explorent des thèmes assez extrêmes, sur le sexe, des thèmes SM. Enfin bon, c'est pas du tout musicalement, c'est aussi assez avant-gardiste. Alors Purple Rain est quand même un album beaucoup plus ouvert que les précédents, mais ça reste quand même un artiste qui est pas du tout un artiste aussi potentiellement commercial que pouvaient l'être d'autres artistes noirs américains. Donc c'est vraiment un disque qui marque l'avènement d'une autre ère aussi. C'est très typique des années 80, et c'est pas un hasard si c'est la même décennie qui a vu l'explosion de Madonna et de Michael Jackson, trois artistes qui sont nés d'ailleurs la même année, en 58.
Dans Purple Rain, les tubes comme Let's Go Crazy, c'est très dansant, très accessible. Peut-être la chanson Purple Rain l'est un peu moins avec son format assez bizarre de presque 9 minutes.
Ah bah Purple Rain, oui, c'est complètement exceptionnel. C'est un disque, c'est un morceau Purple Rain qui n'est pas du tout, qui n'a pas le format single, enfin un petit peu comme pouvait l'être The End pour les Doors, des morceaux hors normes, hors format, des performances, des morceaux. On le sait aujourd'hui, 30 ans après, puisqu'il continue à en faire une des vedettes de son répertoire, un morceau fait pour la scène, fait d'ailleurs pour l'ultime rappel. Moi, la dernière fois où j'ai vu Purple Rain sur scène, c'était son concert de la Cigale, le lendemain du Grand Palais, où il a fait 6 rappels, et le 6e, au bout de presque 3 heures de concert, c'était Purple Rain dans une version de 15 minutes. Il a d'ailleurs rappelé au public, vous êtes tarés, que les gens ne voulaient pas le laisser partir. Et évidemment, il était hors de question qu'il parte avant Purple Rain.
Selon vous, Olivier Cachin, quels sont les descendants de Prince aujourd'hui?
Bah, ça serait dommage pour Prince, qui est encore vivant et très actif, de parler de descendants. Mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inspirés de lui. Mais je pense que comme Bowie, comme Michael Jackson, comme beaucoup d'artistes, ou même comme Ian Curtis, même si sa carrière a été plus courte, comme beaucoup d'artistes qui ont marqué très très fort l'histoire de la musique, ce sont des gens qui n'ont pas de descendance, dans le sens où beaucoup d'artistes s'en inspirent, mais aucun ne peut prétendre l'imiter ou l'égaler. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a mis sa marque dans l'histoire de la musique et qui a réussi à imposer une unicité, quelque chose qui fait qu'il n'y aura jamais de deuxième Prince comme il n'y aura jamais de deuxième Michael Jackson, même s'il y a bien sûr Justin Timberlake, Usher et plein d'autres.
Cyril Atef, vous mimiez pendant qu'on écoutait cette interview d'Adrien Mazelli sur fond de Purple Rain. Vous étiez en train de mimer les briquets, hein, qu'on sortait tous. Vous, peut-être, vous
non.
aviez l'âge.
Non, j'avais l'âge.
Vous n'avez jamais vu un concert de Prince?
J'adorais Prince. Purple Rain, ce n'était pas mon album préféré. J'adore Sign of the Times, Parade, et même ses premiers albums. Dirty Mind, tout ça. Mais j'ai vu Prince il y a 4 ans à Los Angeles, au Forum. C'est un peu comme le Bercy de Los Angeles, une vieille salle. Et il a fait genre 11 concerts de suite et c'était mortel, quoi. Le gars, il se fait plaisir, il n'a plus besoin de vraiment faire de tubes, il en a tellement. Il joue 2h30, 3h, super groupe. J'ai amené mes gamins, on a passé un moment incroyable.
Et alors les briquets?
Il y avait du briquet. Il a même sorti les drapeaux, il a fait un peu de prosélytisme, témoin de Jéhovah, des trucs comme ça. C'était assez, mystique des fois aussi. C'était original.
En tout cas, lui, il a le secret de la transe.
Il a la tranche, le gars.
Il a la tranche.
Oh non, c'est nous la tranche, lui, il a
c'est
la tranche.
C'est un peu charcuterie, hein, ce mot.
Une dernière question à vous tous, qui avez vécu un peu partout, qui signez deux albums, New Day d'un côté et No Guns, More Drums de l'autre. Deux albums empreints de vagabondage musicaux. Paris. Pourquoi vous avez choisi de vous installer, de vous ancrer tous à Paris? Cyril Attef, je disais dans une interview de vous dans Télérama, vous écrivez, vous dites « Paris a une grande culture littéraire, mais rythmiquement, c'est pas trop ça.
Yep. »
Vous n'avez pas peur de vous endormir ici?
C'est vrai qu'au niveau rythme, je parle même pas que Paris, mais la France en général, il y a beaucoup de problèmes rythmiques. Quoi. Les Français tapent sur le 1 et le 3, ce qui est pour moi, c'est une horreur, quoi. Ouais, moi, j'aime bien que les... Moi, j'ai grandi à Los Angeles, c'est 2-4, quoi. C'est 1, 3... Et les Français, où ils tapent sur tous les mains... ou, sur, tu vois, il y a un problème rythmique. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon. Et mon but, c'est quand même d'amener une éducation rythmique, quoi.
Winston McAnuff, vous survivez dans cette rythmique, ce rythme parisien?
Yeah, well, you know, start. You have to know what you want as an artist. You know.
Quand on est artiste, il faut savoir ce qu'on veut quand même.
Require it as well, you know. Ask for it, demand it.
Et puis il faut être exigeant, il faut essayer d'avancer comme ça, mais il faut savoir qui on est et ce à quoi on veut arriver. Il faut choisir son esprit, parce que quand on tape dans les mains, c'est universel ça comme langage. Mais évidemment, il y a façon et façon de taper dans les mains.
But it's still coming back to, you know, surrendering to the natural.
On en revient quand même à abandonner son ego pour agir de façon naturelle.
Yes, surrendering to the natural.
Abandonner son ego et s'abandonner au naturel.
Yes,
voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est là que c'est puissant. Et c'est là qu'on frise la transe ou
tranche.
Si on joue de façon monotone.
Because without the monotony,
parce que
there's no chance.
Non, si on joue de façon monotone, on n'a aucune chance de réussir. Donc il faut décider ce qu'on fait et s'y tenir.
Winston McAnuff, avant de se quitter, on remerciera les deux têtes pensantes du label Macassound, deux grands voyageurs musicaux, là encore, qui vous ont amené à nous et fait connaître en reprenant notamment, rééditant vos albums, l'album What a Man Deal With, notamment votre deuxième album qui vous a vraiment fait connaître en France, et on est heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Congo Punk et Winston McAnuff avec Fixie seront donc en concert, vous l'aurez compris, demain soir aux Escales de Saint-Nazaire. Je redonne les horaires, 21h30 pour Winston McAnuff et Fixie, 22h pour vous, Congo Punk. Et vous êtes aussi ce soir à Brest avec Constantin Leu. Faites un beau voyage vers la Bretagne, vers le Finistère ce soir à Brest, dans le cadre du festival Les Jeudis du Port à 19h. Merci beaucoup à tous les quatre et un grand merci à Xavier Kong pour sa traduction.
Merci.
Merci.
Et la Grande Table remettra le couvert demain. En attendant, je récapitule la première partie de cette émission. Vous avez pu entendre Kaori Ito et Olivier Martin Salvant qui interprètent leur religieuse à la fraise dans le cadre de Paris Quartier d'été à Paris et en région parisienne jusqu'au 9 août. À voir aussi absolument Olivier Martin Salvant en Pantagruel à Brest le 27 septembre et en tournée dans toute la France dès le 7 janvier. Kaori Ito, elle, sera dès octobre dans une mise en scène de Yoshioida Yume à la Maison de la Culture du Japon à Paris et en novembre à l'Opéra de Reims. Vous pouvez également l'avoir dansé dans Plexus, une pièce d'Aurélien Bory écrite pour Kaori Ito. Une longue tournée en France jusqu'en mai 2015. Octobre, elle sera à Nantes. Novembre, à La Réunion. Et puis toute la période de Noël au Théâtre de la Ville à Paris. Toutes les infos concernant la Grande Table d'été sont à retrouver sur la page de l'émission, soit franceculture.fr, où vous pouvez également nous laisser vos commentaires et podcaster ce rendez-vous. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table d'été, Michel-Ange Vinti qui a réalisé cette émission, Pierrick Monsigny qui s'est chargé de la prise de son des lives, et à Jean-Guilain Meige qui était à la technique aujourd'hui. Clémence Marie a préparé cette émission, Claudia Prolongeau, Adrien Nazelli l'ont aidé, attaché de production Claire Poinsignon. Demain, je vous retrouve pour une grande table d'été qui fera le passage entre le mois de juillet et le mois d'août avec un point sur l'actualité culturelle côté art contemporain. Et pour finir en beauté, ce mois, plateau maestro avec le pianiste Vincent Koch du trio Vanderer et une rencontre avec l'acteur Michael Lonsdale à l'affiche du film éponyme de Léa Fazer. Maestro.